Mais bien cher frère, avant que je commence ce sermon, je vous assure de toutes nos prières, puisque nous serons au pèlerinage du Puy pour la Pentecôte avec Monseigneur Williamson, nous, c'est-à-dire la communauté de la Villeneuve, du prieuré Notre-Dame du Christ Roi, et puis quelques fidèles qui auront eu la possibilité de se joindre à nous. Et puis, j'espère que ce sermon va être assez naturel, puisque je viens déjà de l'enregistrer et que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Alors, je vous donne une nouvelle mouture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien chers frères, le Saint-Esprit est bien mystérieux et pourtant il est très important. Il est essentiel à la vie chrétienne. Il n'est pas possible de vivre la vie chrétienne sans vivre des dons du Saint-Esprit. On en vit plus ou moins, mais on ne peut pas vivre sans. Il est important de redécouvrir la nature de la vie chrétienne. Je vous ai déjà dit dans des sermons précédents que notre Seigneur avait peu donné de lois. Il a essentiellement donné un esprit, un idéal à pratiquer. Eh bien, cet idéal, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en nous, qui vit en nous, qui parle, qui agit en nous. Vous allez me dire, mais comment se manifeste-t-il? Je ne l'entends pas, je ne le vois pas. Vous ne voyez pas non plus, mais bien chers frères, la vertu, la grâce, et pourtant vous savez bien qu'elles sont présentes. Quand on cherche quelle est la loi du Nouveau Testament, la loi de l'Évangile, c'est-à-dire la loi chrétienne, et qu'on cherche dans saint Thomas d'Aquin, on voit bien le décalogue pour tout l'Ancien Testament, et pour l'Évangile, saint Thomas nous dit que la loi évangélique, c'est le Saint-Esprit en personne. Alors cela peut paraître surprenant, mais puisqu'il en est ainsi, il faut accepter cette réalité et c'est à nous d'en tenir compte et de nous y adapter et non pas de la réduire plus ou moins pour qu'elle corresponde à nos vues humaines souvent étriquées. Alors, pourquoi le Saint-Esprit vient-il dans notre âme? Parce que c'est lui-même qui est présent. La théologie nous parle de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit. Le Fils a été envoyé dans une nature humaine, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est envoyé dans l'âme de tous les chrétiens. Pas seulement des chrétiens baptisés, mais de tous ceux qui ont la grâce. Et saint Thomas est très explicite, le Saint-Esprit vivait vraiment, en étant vraiment présent, dans l'âme des patriarches de l'Ancien Testament, dans l'âme de saint Joseph, dans l'âme de Saint Jean-Baptiste, dans l'âme de tous ceux qui ont été fidèles et qui attendront au limbe pour entrer ensuite au ciel, mais qui vivaient déjà du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, on a trop facilement remplacé la vie chrétienne, la vie morale, mais c'est la même chose, par une vie d'obligation, une morale d'obligation, alors que nous vivons dans une morale d'amitié et d'enthousiasme. Eh bien, la morale d'obligation repousse, plus ou moins bien sûr, repousse l'action du Saint-Esprit dans l'âme. Tandis que la morale d'enthousiasme, c'est la morale du Saint-Esprit. Dieu a voulu créer avec nous une très belle et très intime amitié. Et on l'a dans la Genèse, Dieu parlait à Adam et Ève dans la brise du soir. Les termes poétiques expriment bien cette intimité de Dieu avec Adam et Ève. Le péché a détruit cela et Dieu a voulu restaurer cette amitié. Et pour la restaurer, il a envoyé son Fils sur la terre. Et le Fils, avant de partir, de monter au ciel, avant de quitter ses apôtres, leur a dit « Ne regrettez pas que je monte. Là-haut, je vous enverrai mon esprit, l'esprit qui procède du Père. » C'est le grand cadeau de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous faire le grand cadeau de l'amitié de Dieu. Or, cette amitié, dans la Sainte Trinité, c'est l'Esprit-Saint lui-même. Là encore, mystère un peu difficile à comprendre et à exprimer, et par conséquent, mystère dont on parle peut-être peu, et probablement pas assez, et cependant, mystère qui est très présent dans la vie des saints, et dans la vie des gens simples que Dieu a guidés. Donc, le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils. Dieu le Fils, Dieu le Père, lorsqu'ils s'aiment d'un amour qui est égal à eux. Ils ne peuvent pas produire quelque chose qui soit inférieur à eux. Et cette production, c'est l'amour substantiel du Saint-Esprit, une personne même. Et lorsque notre Seigneur nous dit qu'il nous donne son amour, lorsqu'il nous transmet le trésor qui est le sien, parce qu'il vivait avec le Père dans le Saint-Esprit, même sur terre, lorsqu'il nous transmet le trésor qui est le sien, c'est le Saint-Esprit. Et il le promet aux apôtres, « Je vous donnerai l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet, qui procède du Père. » Alors, cet esprit n'est pas donné qu'aux apôtres, mais à nous tous, bien sûr. Alors, il est important de ne pas confondre le Saint-Esprit et ses dons. C'est bien le Saint-Esprit que nous recevons et pas seulement ses dons. Certes, il y a les dons, mais c'est comme un débordement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une source infinie qui se répand à profusion, comme l'amour de Dieu se donne à profusion. Et lorsque le Saint-Esprit est présent dans l'âme, il se répand, il déborde à profusion dans l'âme, et ce débordement va nous toucher, toucher tout ce qu'il trouve, et tels sont les dons. On aurait peu besoin de connaître les dons eux-mêmes parce que lorsque le Saint-Esprit est présent dans l'âme, il nous tient, il nous meut, c'est-à-dire que c'est lui qui nous tient dans sa main et nous n'avons qu'à le suivre. Nous connaissons les vertus beaucoup plus en détail parce que c'est nous qui les mettons en œuvre. Tandis que dans l'action du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le premier à agir. Cependant, Dieu a voulu nous faire connaître les sept dons parce que cela nous montre les sept directions dans lesquelles le Saint-Esprit nous dirige, les sept voies, si vous voulez, et auxquelles nous devons collaborer. Et cela nous montre les sept voies les plus importantes de la vie chrétienne. On commence, quand on énumère les dons du Saint-Esprit, on commence par la sagesse, parce qu'il est le plus beau. Si l'on veut prendre les choses logiquement, il faut commencer par l'intelligence. Le don d'intelligence, intelligence intus legere, lire dedans, est un don qui nous fait pénétrer les vérités de foi. On le voit chez les apôtres, ils avaient beaucoup de mal à comprendre le mystère de notre Seigneur avant la Pentecôte. Ils étaient un peu désemparés. Et puis, dès que le Saint-Esprit leur est donné, alors tout est clair et ils prêchent. Le don d'intelligence nous fait pénétrer, entrer dans le mystère de la foi. Même si ce mystère conserve une certaine obscurité, c'est le Saint-Esprit qui dissipe peu à peu cette obscurité pour nous donner la lumière. Et puis, après ça, il faut accorder notre conduite avec la foi. Il va falloir donc appliquer ou juger, si vous le préférez. Et nous avons le don très élevé de la sagesse, qui nous fait juger toute chose à la lumière de la foi. Et c'est pourquoi on parle de sagesse. Un sage est supérieur à un savant. Un sage dirige un pays, un savant dirige une entreprise ou une usine. Un homme de science, voyez. Le don de sagesse suppose une amitié entre Dieu et nous que crée le Saint-Esprit, car il n'y a que celui qui aime bien, qui comprend bien et qui juge bien. C'est un petit peu le jugement que une maman et un médecin vont porter sur un enfant malade. Il arrive que la maman comprenne mieux la maladie que le médecin, parce que l'enfant est sa chair, sa propre chair. Il y a une intimité avec lui. Je n'ai qu'un exemple, bien sûr, mais lorsqu'il y a une intimité avec le Saint-Esprit, lorsque la charité crée une intimité avec le Saint-Esprit, alors nous pouvons juger de toute chose à la lumière du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nourrit évidemment cette intimité dans le don de sagesse. Ensuite, il faut juger selon les principes moins élevés. C'est le don de science qui spécialement va nous faire voir ce monde à la lumière de Dieu. On pourrait dire que le don de sagesse, lui, nous faisait voir Dieu à la lumière de Dieu et juger, appliquer la lumière de Dieu à toute chose, mais au plus haut niveau. Là, il s'agit plus des choses créées. Et puis ensuite, vous avez le don de conseil qui va permettre de juger dans les situations particulières. Vous voyez que nous avons donc trois dons pour juger. Un don pour connaître, et trois dons pour appliquer et juger. C'est le don d'intelligence qui va nous permettre de discerner dans la crise actuelle ce qui est conforme à l'enseignement de l'Église et ce qui n'y est pas. Vous me direz que c'est le pape qui est le critère de la foi. Non, c'est l'Église qui nous donne la foi. Le pape définit les questions difficiles et controversées, mais savoir, connaître ce qui est conforme à l'enseignement de l'Église et ce qui ne l'est pas, c'est à chacun de nous de le faire. Nous ne pouvons pas abandonner ce jugement, le déléguer à quelqu'un d'autre, le sous-traiter ce jugement. C'est à nous de voir, et nous avons le Saint-Esprit pour cela. Vous me direz, mais nous sommes très faibles. Mais le Saint-Esprit est plus fort que tout, et même plus fort que les garanties qui nous pourraient nous rassurer, évidemment. S'il n'y avait qu'à suivre le pape, ça rassure, parce que le pape, on l'entend, on le voit, on le lit. Et cependant, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de savoir lorsque le pape engage l'Église, lorsqu'il ne l'engage pas, qui nous permet de savoir lorsque c'est l'Église qui parle et lorsque ce n'est pas elle. C'est pourquoi Monseigneur Lefebvre disait qu'un enfant avec son catéchisme était capable de répondre à un évêque sur les questions du catéchisme et de dire à l'évêque, Monseigneur, vous vous trompez, ce n'est pas ce qu'il y a dans mon catéchisme. C'est également ce que font ceux qui rejoignent la tradition. Et je me rappelle un homme qui était venu dans mon bureau le lendemain des sacres ou quelques jours après les sacres. Monsieur l'abbé, je viens vous demander vos lumières, et puis il me dit, oh, c'est idiot, après tout, vous êtes de la fraternité Saint-Pie-X, vous ne pouvez que défendre les sacres et donc les sacres, et donc vous n'aurez pas un point de vue objectif. Et je lui ai répondu, mais monsieur, je ne vais pas défendre les sacres, je ne vais même pas les justifier. Je vais vous mettre à la fenêtre, je vais ouvrir la fenêtre et je vais vous dire, regardez. Et à ce moment-là, il me dit, oh, c'est bien vrai, monsieur l'abbé, l'église dans laquelle nous sommes n'est plus l'église de toujours, et aussitôt c'est lui qui se met à me justifier les sacres. Et le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit éclaire. Et le Saint-Esprit nous demande de juger toutes choses. Le don de conseil est ce qui nous permet, dans les situations particulières, d'orienter notre vie selon le Saint-Esprit. Il est particulièrement présent, le Saint-Esprit, dans les conseils évangéliques. Les conseils, don de conseil, les conseils évangéliques ne sont pas une loi, mais je vous ai dit qu'il y en avait très peu de lois. Et pourtant, ils tracent bien une route. Et ils indiquent bien un idéal. Bienheureux, 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 bienheureux. Bienheureux les doux, bienheureux les pauvres d'abord, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, etc. Alors pourquoi l'évangile est-il resté général, sans nous dire qu'il fallait absolument être pauvre et que l'Église nous dit que l'esprit de pauvreté peut suffire? Et puis pleurer, on ne pleure pas tout le temps, avec qui pleure-t-on, sur quoi pleure-t-on, etc. Parce que c'est justement la beauté de la vie chrétienne que chacun mette en œuvre personnellement les conseils évangéliques. Dieu nous traite en personnes responsables, et si nous serons jugés, c'est parce que nous avons eu une responsabilité. On ne juge pas une machine. On ne juge pas un simple exécutant. Lorsqu'une maison n'est pas belle, on ne s'en prend pas au maçon, parce que le maçon n'a fait qu'exécuter les plans. Si on juge, c'est parce que nous ne sommes pas des simples maçons, nous sommes des architectes, architectes maçons si vous voulez, mais enfin nous sommes des architectes, c'est-à-dire que nous construisons notre vie sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le monde moderne voudrait nous ôter cette responsabilité. On le voit, je vous en ai déjà parlé, cette morale d'obligation où on se contente d'obéir à la loi sans chercher à plus loin. Et le Saint-Esprit, lui, nous fait vivre dans la morale d'enthousiasme et d'amitié. Alors c'est chacun d'entre nous qui avons notre responsabilité pour construire notre vie. Un jeune homme choisit une jeune fille pour l'épouser, avec quelle jeune fille vais-je être le plus chaste? Avec quelle jeune fille vais-je le mieux vivre dans la pauvreté? Avec quelle jeune fille vais-je le plus avoir faim et soif du royaume de Dieu? Et c'est pour ça que les conseils sont pour tout le monde, même si l'application n'est pas déterminée précisément, parce que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que le garçon choisira telle jeune fille qui lui permettra de pratiquer son idéal parce que elle possède le même idéal. A fortiori, évidemment, lorsqu'on a la vocation, c'est-à-dire lorsqu'on pense servir l'Église d'une manière différente du mariage. Il reste, mais c'est important cela. Et si nous voyons, par exemple, si les pères et les mères de famille voyaient l'éducation comme une mission de leur part de faire vivre leurs enfants dans le Saint-Esprit, cela changerait beaucoup de choses. On a trop tendance à voir l'éducation aujourd'hui, la place des parents, la fonction des parents par rapport au monde d'ici-bas. Trop souvent, on se dit, oh, les choses de Dieu, c'est très élevé, cela revient à Dieu. Nous, les pères de famille, nous devons établir nos enfants ici-bas pour qu'ils s'en sortent le mieux possible. Ce qui ne veut pas dire nécessairement le plus richement possible, mais le mieux possible. Et puis, Dieu s'occupera du reste. Je crois que c'est l'inverse. Bien sûr, c'est Dieu qui s'occupe du reste, c'est évident. Il s'occupe de tout. Et le Saint-Esprit s'occupe de tout. Et les parents n'ont pas à diviser ainsi la vie de leurs enfants entre temporel et éternel. Et toute leur mission est de mettre les enfants dans les conseils évangéliques, dans la pauvreté, dans la chasteté, dans l'humilité, dans la douceur, etc. Il reste trois dons, la piété, la force et la crainte de Dieu. La force, d'abord, la force, c'est l'enthousiasme. Peut-être que le mot force peut nous fausser un peu nos conceptions des choses parce que nous voyons la force d'un tracteur, d'un bulldozer. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de la force d'un chef qui enthousiasme, d'un ami qu'on suit. Et il s'agit de la force de l'enthousiasme qui est en nous. Le Saint-Esprit nous transmet cet enthousiasme et celui-ci balaye tout sur son passage. Parce qu'il n'y a plus que le Saint-Esprit qui compte, qu'il n'y a plus que Dieu, tout le reste est balayé. Et cette force se transmet à la vertu de force, les deux sont très liés, la vertu de force qui va être plus humaine, disons. Je vous ferai un autre jour un traité sur les vertus, ce n'est pas le moment tout de suite. Mais cette force est très importante, vous voyez, je vous en ai parlé déjà. Ensuite, la piété et la crainte de Dieu, la piété qui nous fait voir Dieu comme un père et non pas comme un maître, c'est-à-dire qui nous met dans l'amitié de Dieu. Pourquoi parle-t-on de piété alors et non pas d'amitié? Parce qu'il s'agit d'une amitié avec un père. Et l'amitié avec un père reste une amitié entre deux personnes inégales. Elle peut être plus forte qu'entre personnes égales, elle reste entre personnes inégales. Un père est au-dessus de son fils, et s'il y a beaucoup d'amitié entre eux, ce qui est tout à fait possible, malgré tout, le père reste le père. Et voilà pourquoi on parle de piété, piété filiale, et non pas, parce que la piété est relative au père, n'est-ce pas? Et non pas d'amitié. Enfin, la crainte de Dieu, qui est la crainte non pas de Dieu, mais de nous. C'est-à-dire que nous craignons de déplaire à Dieu. Et là, l'action du Saint-Esprit est vraiment merveilleuse. Prenez, par exemple, des scrupuleux. Un scrupuleux est quelqu'un qui a du mal à juger de ses actes. Une sorte de difficulté, de maladie, quand le scrupule est grave, qui fait que l'intéressé ne peut pas juger. Il devrait, les autres hommes arrivent à juger la qualité de ce qu'ils font, et lui a du mal. Et cette difficulté, cette maladie du scrupule, est permise par Dieu. Pourquoi? Parce que comme le scrupuleux est démuni des moyens humains de juger de son action, il ne lui reste plus qu'à se jeter entre les mains du Saint-Esprit, si je peux prendre cette façon de parler. Se mettre dans le Saint-Esprit. Les hommes, d'habitude, montent au ciel par l'escalier. Mais quand on ne sait pas où est l'escalier, lorsqu'on a du mal à le monter, que sais-je, alors le Saint-Esprit nous fait monter par l'ascenseur. On va se dire, mais ce n'est pas normal, parce que l'ascenseur est beaucoup plus facile et plus rapide. Mais l'amour de Dieu ne réside pas dans la difficulté, ni dans la durée. Et les scrupuleux doivent se rassurer, parce que, en entendant mon sermon, je suis certain que certains d'entre vous se font du scrupule en disant « Je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'est le Saint-Esprit et par conséquent je ne sais pas faire. Si c'est cela, il ne reste qu'une possibilité qui est de se tourner vers le Saint-Esprit et de lui dire « Prenez-moi, guidez-moi, prenez-moi dans vos mains et faites-moi faire ce que vous attendez de moi. » Vous me direz, mais je ne le sais pas, nous n'avons pas besoin de savoir puisque nous avons la foi et que nous savons que le Saint-Esprit agit en nous. Dans tout cela, il faut faire intervenir la Sainte Vierge, puisque Dieu l'a fait intervenir à la Pentecôte. L'Écriture sainte prend bien soin de dire que le Saint-Esprit a été donné à la Sainte Vierge et aux apôtres. Il met la Sainte Vierge à part, l'Écriture sainte met la Sainte Vierge à part. C'est donc qu'elle a une place particulière, une fonction particulière. Sa première fonction a été de préparer les apôtres pendant les 10 jours de retraite entre l'Ascension et la Pentecôte. Préparer les apôtres, l'âme des apôtres, à recevoir le Saint-Esprit. Et puis, c'est par elle que le Saint-Esprit se donne à eux. Et de même, nous devons demander à la Sainte Vierge de préparer notre âme à recevoir le Saint-Esprit et à agir, pas seulement à le recevoir, mais préparer notre âme à être disponible à l'action de la grâce. Et elle le fera vraiment. C'est pourquoi la consécration à la Très Sainte Vierge, surtout celle selon Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, est tellement importante, et j'en reparlerai, je m'arrangerai pour que vous puissiez tous vous consacrer. Parce que la consécration est un acte personnel, un acte d'adulte, quelqu'un qui se donne lui-même. On ne passe pas par le prêtre, directement on se donne à la Sainte Vierge pour qu'elle nous donne au Saint-Esprit, enfin à son Fils et au Saint-Esprit. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort dit « Jésus, la sagesse éternelle », on voit bien qu'on entre là vraiment dans le mystère de Dieu. Et consacrez-vous à la Sainte Vierge pour qu'elle vous consacre au Saint-Esprit. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.